chères cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusion vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Jennifer O'Neill. Jennifer est une physiothérapeute et doctorante en sciences de la réadaptation à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche portent sur l'amélioration et l'accessibilité des services de réadaptation pour les personnes ayant subi un traumatisme neurologique. Elle cible actuellement la mise en œuvre de la téléréadaptation pour améliorer l'accès aux soins tout en se concentrant sur la réadaptation à base communautaire. Professeure au programme de physiothérapie de l'Université d'Ottawa, elle possède une expérience importante en santé mondiale. C'est avec plaisir qu'elle vient nous partager son expertise entourant l'utilisation de la téléréadaptation et principalement par rapport à l'importance d'une première séance bien ficelée. Bon épisode à tous! Bonjour!
Bonjour Julien, bonjour à tous qui écoutent ici aujourd'hui.
Donc, merci beaucoup de prendre votre temps pour venir discuter du sujet avec nous. J'avais vraiment hâte d'aller découvrir votre univers, le monde de la recherche dans lequel vous êtes planché à tous les jours. Pouvez-vous un peu donner un portrait aux auditeurs, le domaine dans lequel vous travaillez actuellement?
Oui, absolument, ça me fait plaisir. Donc, comme vous dites, j'ai terminé mon doctorat en sciences de réadaptation, donc je suis physiothérapeute de profession. Puis, mon doctorat se penchait vraiment sur l'utilisation de la téléréadaptation pour livrer des programmes d'exercice à domicile intensif, vraiment cibler les personnes avec des TCC modérés et sévères. Donc, l'idée que la complexité des soins avec soit des gens qui ont des déficiences motrices assez sévères, mais aussi des déficiences cognitives assez sévères, puis quand même être capable d'utiliser la téléréadaptation, la supervision à distance avec ces gens-là. Donc, c'était vraiment là-dessus que je me concentrais lors de mon doctorat, que j'ai adoré. Alors, ça va me faire plaisir d'en discuter un peu plus avec vous aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. C'est sûr et certain que la pandémie a amené un mouvement très précipité vers cette approche-là pour ce qui est des cliniciens pour faire un suivi à distance selon les conditions que tout le monde connaît. L'importance d'une première rencontre, le lien, comment est-ce qu'on se prépare pour réussir à implanter une telle approche avec nos patients?
C'est une super bonne question. En fait, c'était une des questions sur lesquelles on se penchait dans plusieurs de mes études. Comment on fait pour établir cette alliance thérapeutique-là, cette relation thérapeutique, mais aussi comment on fait pour mettre les gens à l'aise avec cette nouvelle forme alternative, si on veut, de la physiothérapie. Donc, une des choses qui est vraiment ressortie, surtout avec une population peut-être plus complexe qu'une population orthopédique, par exemple, c'est vraiment de prendre le temps d'être confortable avec la technologie, de prime abord. Donc, non seulement de s'assurer que les gens, de l'autre côté de l'écran, ils se sentent confortables, mais aussi que les thérapeutes se sentent confortables à utiliser la technologie. Donc, ça va vraiment des deux sens. Donc, ce que je suggère souvent aux thérapeutes, c'est de juste jouer avec la technologie avant même de se lancer à utiliser la téléréadaptation pour offrir des services de physiothérapie. De l'autre côté, c'est vraiment d'établir ce sens-là d'utiliser une séance vraiment pour s'assurer que tout le monde est confortable. Donc, on dit par exemple aux gens que la première séance va être une séance d'information à la technologie pour s'assurer que les gens se sentent à l'aise. Mais en fait, d'un autre côté, le petit côté caché de ça, c'est d'établir cette relation thérapeutique-là. Donc, si on y va plus en détail, là, d'y aller avec, par exemple, simplement comment se connecter, comment aller chercher le lien sur le courriel, comment se connecter, comment se sentir à l'aise, comment placer l'environnement pour être sécuritaire, mais aussi à l'aise, confidentiel, privé, qu'on voit bien aussi ce qui se passe du côté plus biomécanique, évidemment, ou de la physiothérapie, mais aussi pour que les gens se sentent à l'aise, puis comme si on était en personne. Donc, ça, c'est une des premières séances qu'on fait dans mon projet, qui a vraiment aidé beaucoup de gens à se sentir en confiance avec l'utilisation de la technologie. Puis après ça, mais c'est juste d'être physiothérapeute. Une fois que les gens se sentent à l'aise avec la technologie, on est juste physio ensuite, puis on fait notre travail comme on est habitué.
Puis cette prémisse-là, de venir vraiment accompagner par rapport à l'usage de la technologie, autant que ce soit le clinicien, le patient, Comment les gens ont perçu un peu cette approche-là une fois qu'ils étaient bien ancrés ou du moins comprenaient davantage l'utilisation des logiciels puis de la plateforme qui était mise de l'avant?
Mais c'est drôle que vous demandiez ça. Mon étude est une étude de méthode mixte. Donc, évidemment, j'ai demandé aussi de façon qualitative qu'est-ce que les gens y pensaient. Puis, c'est drôle parce qu'il y a une personne qui a vraiment dit « Je me sentais comme un dinosaure quand vous m'avez présenté d'utiliser la technologie. » Donc, il y avait vraiment cette peur-là. Mais ils sont quand même allés de l'avant. Puis, après quelques sessions, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils se sentaient très à l'aise de continuer avec la technologie. Donc, on a vraiment passé d'un stress, si on veut, d'une période d'anxiété, d'utilisation de technologie, à se sentir complètement à l'aise, connecté, être capable de m'envoyer des photos. Donc, des choses comme ça qui étaient, je pense, qui étaient un peu à la surprise de ces participants-là, qui étaient bien là.
Ah, mais c'est le fun de voir après ça l'impression des gens une fois qu'ils ont été réconfortés puis qu'ils comprennent le logiciel parce que oui, on va être peut-être amené à travailler davantage vu que la population vieillissante avec des gens qui n'ont pas nécessairement un pied très récent dans la technologie puis de faciliter un accompagnement comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant que de voir que des gens ils sont déjà passés puis qu'ils ont réussi à utiliser puis de faire comprendre aux gens que eux aussi sont capables en les réconfortant selon ce que, oui, c'est une étude, c'est des chiffres, mais que ces gens-là, c'est pas juste des numéros, c'est vraiment des patients qui ont eu recours à une telle technologie. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Oui, puis je pense qu'il y a un point important aussi à penser dans cette optique-là, c'est que mon doctorat était vraiment avant la COVID. Donc, dans le sens que c'est sûr que mon timing était quand même... Bon, si on voit avec l'impact au niveau de la pratique, mais tout ça était fait avant la COVID. Donc, les gens, c'était quand même assez nouveau là, d'utiliser la téléradaptation, surtout dans une population plus avec des conditions neurologiques. Donc, c'était un peu plus nouveau, un peu moins vu. Donc, c'est ça. Mais d'un autre côté, maintenant, ce qu'il faut penser, c'est pratico-pratique, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, que c'est plus vrai la réalité que les gens plus âgés, exemple, ont la difficulté avec la technologie, tu sais, que c'est une barrière pour eux. C'est de moins en moins vrai, en fait, parce que justement, tout le monde l'utilise à tous les jours. Tout le monde a été forcé d'utiliser la technologie à tous les jours, que ça soit de rester connecté avec la famille ou rester connecté avec les soins de santé. Donc, je pense que, tu sais, l'idée, la compétence digitale, si on veut, c'est beaucoup moins une barrière de ce qu'on pensait avant la COVID. Donc, mais c'est quand même important de passer du temps à s'assurer que les gens se sentent à l'aise, plus au niveau de l'éducation, je crois, plus au niveau, comme je disais au début, là, l'environnement, comment bien positionner l'environnement, puis expliquer pourquoi ça, c'est important. C'est du côté sécurité, du côté de relations thérapeutiques, dans le sens de bien connaître puis se sentir à l'aise avec la technologie, puis vraiment s'assurer que les gens puissent nous voir face à face, comme vous regardent dans les yeux. On prend quand même comme si on était en personne pour se sentir vraiment supporté, même si à travers d'un écran.
Pour les cliniciens qui nous écoutent actuellement, un peu votre règle d'or, vous avez comme vu, je pense, commencé à en parler. Je commence une rencontre avec vous présentement. C'est quoi les gens devraient essayer de reproduire ou du moins s'assurer d'avoir en contact avec eux ou près d'eux pour être capable d'avoir la relation avec leurs patients dans le sens que je veux établir une relation comme si j'étais en réel ou du moins essayer d'être plus similaire à la réalité des choses. C'est quoi les conseils que vous donneriez aux gens suite à ce que vous avez relevé dans vos études ou dans l'expérience clinique que vous avez eue pour être capable de dire je suis capable d'établir un bon lien malgré tout. Souvent, des fois, il peut y avoir des délais entre la caméra et la conversation pour faire en sorte que la personne ne soit pas gênée de venir interagir ou de comprendre que le lien, des fois, n'est pas aussi instantané malgré le fait qu'on a des bons internets de plus en plus. Quels sont peut-être vos petits points techniques ou clés qui pourraient encourager les gens à bonifier leur pratique actuelle?
Il y en a plusieurs, évidemment. Le premier, je dirais, c'est de vraiment rester humble. Donc, tu sais, s'assurer de démontrer comme clinicien de notre côté, peut-être que nous aussi, on n'est pas entièrement à l'aise. Ça fait pas 25 ans qu'on fait ça à distance. Donc, c'est peut-être une bonne idée de dire, moi aussi, je suis nouvelle avec cette technologie-là, on va le faire ensemble, on prend notre temps. Donc, de rester humble dans cet aspect-là, si c'est nouveau pour nous en tant que clinicien. Donc, ça serait une chose. Démontrer justement que c'est pas parce qu'on est moins à l'aise avec la technologie comme clinicien qu'on n'a pas des bonnes compétences comme clinicien. Donc, c'est pas un va avec l'autre. Évidemment, on se sent plus à l'aise. On va peut-être avoir plus de facilité à utiliser nos outils de physio. Mais c'est pas un sans l'autre, évidemment. L'autre chose que je pourrais peut-être dire, c'est de penser à, évidemment, ma recherche était ancrée dans dans l'autodétermination. Donc, le changement de comportement et la motivation et s'assurer que les gens se sentent bien engagés dans les sessions. Donc, pour moi, l'éducation est hyper important. Donc, supporter, utiliser l'éducation serait une des choses clés avec la téléréadaptation. Mais expliquer ça aux gens de l'autre côté. Donc, expliquer pourquoi vous allez apporter autant d'éducation pour justement leur donner les outils pour être capable de gérer leurs conditions ou gérer, de faire les programmes d'exercice que vous leur donnez. Donc, ça, ce serait un autre point clé. L'autre chose, comme vous avez mentionné un petit peu, Julien, était vraiment la technologie. Le dire d'avance que si ça bloque ou si ça déconnecte ou s'il y a quelque chose qui va pas bien avec l'Internet ou la technologie, de vous faire un petit signe. Donc, je fais un X avec mes bras ou je fais un stop avec la main. Vous déterminez un signe à l'avance pour dire que la technologie ne fonctionne pas bien de votre côté. On prend une pause, on arrête de parler, puis après ça, on recontinue de où on était. Donc, de pas être gêné de demander de répéter ou de dire que ça a déconnecté ou qu'on n'a pas entendu ou quelque chose du genre, parce que justement, ça va arriver. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire dès le début. Puis, vous avez peut-être remarqué que je parle très vite. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, comme clinicienne, il faut que je me répète de ralentir la vitesse, évidemment. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, dire, OK, on parle un peu moins vite. Puis, même chose avec les personnes à l'autre côté de l'écran, les gens avec qui vous traitez. Donc, même chose, c'est de ralentir la vitesse de parole. Puis, quand même, garder contact. Le contact visuel est très important. Donc, une des choses que je dis souvent, justement, c'est d'être proche de l'écran, comme thérapeute, comme si vous étiez proche de la personne en termes de sécurité. Donc, proche pour s'assurer d'avoir ce contact-là plus humain, si on veut, malgré l'écran. Donc, il y a une différence entre être assis à votre bureau à 2-3 mètres de l'écran versus coller sur l'écran puis avoir cette approche-là avec la personne de l'autre côté. Donc, ce serait mes règles d'or, ça serait ça, je vous dirais.
Mais merci beaucoup de ces détails-là. Pour les gens qui seraient curieux d'en apprendre davantage par rapport à ces règles d'or-là qu'on a discutées ou une prise en charge, auriez-vous des outils, des pistes de solutions? Bien évidemment, lire certaines de vos recherches, je vais les mettre en annexe, c'est certain. Mais vous, qu'est-ce qui vous a éclairé? Y a-t-il des milieux que vous pourriez orienter les cliniciens à aller feuilleter pour découvrir plus d'informations?
Mais là, il y en a de plus en plus. Évidemment, il y en avait un peu moins avant, mais là, de plus en plus d'évidence et de recherche au niveau de l'utilisation de la téléréadaptation dans tous les domaines de la physiothérapie. Donc, c'est sûr d'aller voir ça. Il y a plusieurs guides pratiques cliniques qui sont sortis aussi. En français, évidemment, il y en a un peu moins, comme on connaît. Les évidences en français, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Mais il y a un bon guide vraiment pratico-pratique d'outils là, cliniques, de comment placer son espace, tout ça, avec l'Université de Toronto, auquel je fais partie, on a un guide pratique clinique à ce niveau-là. Il y a un nouveau guide pratique clinique qui va sortir de la PTA, donc l'Association de physiothérapie américaine, qui va sortir bientôt aussi, ou on travaille dessus en tout cas. Côté plus neurologie, parce que c'est ça que je connais un peu plus. Moi, c'est sûr que mes articles ont tous été acceptés pour être publiés bientôt dans le journal de Physiothérapie Canada. Donc ça va... Merci. Merci. Mais c'est sûr que ça va sortir. Puis c'est vraiment très, très spécifique avec les gens qui ont des TCC. Donc, je sais qu'il y a moins d'études à ce niveau-là. Les TCC, c'est modéré ou sévère. Évidemment, il y a tous les programmes de vos collègues, là, de Dr. Toussignan, Dr. Corriveau, au niveau de la téléréadaptation qui a été fait. Puis tout ce qui est aussi du groupe d'Alia Carey aussi à l'Université de Montréal, qui est aussi sur la téléréadaptation, donc qui serait une bonne source d'information à ce niveau-là. Puis si on parle aussi de tout ce qui est AVC, les guides pratiques cliniques sur l'utilisation de la téléréadaptation est aussi sorti récemment avec l'AVC Canada. Donc ça, ce serait une bonne place à aller voir aussi à ce niveau-ci. Puis l'autre chose, bien, c'est sûr que tous les congrès, les conférences et les forums dans les prochaines années vont parler de la santé digitale, la téléréadaptation, l'utilisation de la technologie, l'innovation. Donc, si on parle ici à, disons, des étudiants, n'importe quel clinicien qui veut en savoir plus, je pense que c'est vraiment une bonne source ici là, pour justement, de un, rencontrer les gens qui font la recherche, qui utilisent la technologie beaucoup à tous les jours, puis aussi d'avoir des petits trucs là, pratico-pratiques à ce niveau-là, qui est simple.
Un gros merci, Dr. O'Neill, par rapport à tout ça. C'est certain que ce que je retiens beaucoup, c'est l'image d'être aussi près de l'écran qu'on l'est en clinique pour avoir un bon lien avec tout ça.
toutes les ressources, toutes les clés en main que vous avez partagées aujourd'hui. Je suis certain que les cliniciens vont avoir peut-être un regard différent ou en avoir appris par rapport à tout ça. Un gros merci de votre temps, puis je vous souhaite bonne continuité dans toutes vos recherches.
Merci beaucoup, puis ben, à bientôt!
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Clic Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web Clic Physio pour en apprendre davantage sur la téléréadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.